vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Un soir, que François est dans sa chambre à se reposer avant l'arrivée de Paul, allongé sur son lit, le téléphone sonne. Il se dit, doit être Christelle, qu'est-ce qu'elle me veut ? Se lève pour aller répondre dans le bureau de Paul. c'est moi, Laurent. Merde, c'est lui. Laurent lui dit, j'ai réfléchi. J'ai besoin de ton aide. Poisson lui demande, pourquoi faire? Laurent lui dit, je suis en bas de chez toi. Viens me rejoindre. Je vais t'expliquer. C'est très simple. Bien, je viens. Il raccroche. Il sort du bureau. Prend sa veste. Les clés, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ferme la porte à clé. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Une fois dehors, il retrouve Laurent. Laurent lui fait salut. Ensuite, lui dit, j'ai pas le temps, Paul va venir. Laurent lui dit, viens, va au bar, il sera vite dit. Il le mène à une brasserie près de là, c'est une grande brasserie. Décoré rouge et or, 1900, serveur en habit noir, il y a du monde. Ce sont des gens qui sortent de leur travail. Un serveur, d'un 18 ans, grand, mince, blond, vient à eux. Vous désirez? Laurent lui dit, une table pour deux. Le serveur les mène à une table. Et fait signe à un autre serveur de venir pour les commandes. Le même type de garçon. Laurent lui dit, moi une bière, et toi? Otto lui dit, un jus de tomate. Le serveur donne le menu des bières. Laurent en choisit une. Le serveur se retire. Otto dit, alors? Laurent lui dit, voilà. J'ai bien réfléchi. Je ne peux pas séduire la jeune fille. Je ne suis pas son genre. Elle lit des romans à l'eau de rose. Moi, je ne suis pas assez jeune pour jouer le prince charmant. Alors j'ai pensé à toi. François lui dit, moi? Mais... je la connais même pas, cette fille. Et puis, je ne suis pas un prince charmant. Je n'ai rien. Il lui dit, ça fait plus romantique. D'abord, lorsque les boissons se retirent, François se prépare la sienne. Ils boivent en silence. Laurent lui dit, pas de soucis. À se faire. Je te montrerai la fille et tu la dragues. Fais en sorte à ce qu'elle t'amène chez elle. Le père sera absent. Tu l'épuises. Et une fois qu'elle dort, tu fauches la clé de l'appartement. 2. Et les clés marquées dessus électricité. Rien de plus. Tu vas à la cave couper l'électricité. Tu m'ouvres la porte. On fait ce que l'on a à faire et on file. François lui dit, mais si la fille se réveille, si ça ne suffit pas, ce que tu leur as fait, tu l'assommes pendant son sommeil. François demande, et les autres proprios de l'immeuble? Personne, c'est les vacances des patrons. Tous sur les routes. On n'en risque rien. François réfléchit et dit, mais elle m'aura vu, elle peut me dénoncer et me reconnaître. Laurent lui dit, elle aura trop honte que l'on sache qu'elle est couchée avec un inconnu et qu'il est voleur en plus. Ça ferait des ennuis au père et il risquerait de perdre sa place. François lui dit, tu penses à tout, c'est mon métier mon vieux. François lui dit, bon eh bien, il faut que j'y aille. Laurent lui dit, tu me demandes même pas quand on fait le travail, demain après-midi à 15h, comme la première fois. La fille, à cette heure-là, c'est l'heure où elle fait ses courses. François termine son verre et lui dit, bon, allez. Et il se sauve. Il se dit que plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra. Quelle mélasse! Lorsque Paul revient, il retrouve François au salon. L'embrasse sur la joue, le voit énervé. Il lui demande, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? François lui dit, si. Mais... j'ai besoin d'oublier. J'ai peur de l'avenir. Serre-moi très fort. Paul le prend dans ses bras. Il pense que c'est à cause de Christelle. Il se dit que ses filles, elles créent toujours des ennuis. Il lui demande, ça va mieux? Tout en le gardant dans ses bras, il le fait mener sur le canapé. Et s'assoit près de lui. François lui demande, est-ce que tu m'aimeras toujours? Quoi que je fasse? Paul lui dit, mais oui, bien sûr. Je garde toujours dans ma mémoire, les petites lettres sans défense que j'ai vues perdues dehors. François lui dit, ça fait combien de temps déjà? Paul lui dit, je ne sais plus. Depuis que tu es là, avec moi, je compte plus les jours, parce que j'ai peur de vieillir. François lui sourit et le serre très fort. Et lui dit, tu es très jeune et le restera encore longtemps, très longtemps. Parce que tu n'es pas comme ces folles qui croient se rajeunir en s'habillant, soi-disant jeune, et se mettant des tas de maquillage. Ça les rend ridicules et les vieillit encore plus. Paul lui dit, tu as raison, mais toi, tu es si jeune. Quel est ton souci? C'est Christelle? François lui dit non, j'ai simplement peur. Peur de l'avenir. Peur que tu ne veuilles plus de moi. Parce que je t'aurais déçu. Paul lui dit, tu ne peux me décevoir qu'en faisant plus de choses, en n'aimant plus. François lui dit, peut-être, mais il y a aussi une autre chose que tu n'as pas pensé. Et si je la faisais, Paul lui dit, la seule chose qui peut me faire de mal, et très mal, c'est que tu me quittes. Autrement, tu peux faire n'importe quoi, je m'en moque. Et l'embrasse sur la joue. Puis il lui dit, J'ai faim. Pas toi. Pas toi aux épaules. Paul lui dit, ça va manger au restaurant. François lui dit, non, j'aime mieux rester ici. Paul lui dit, mais il n'y a rien à manger. François lui dit, ça ne fait rien. Nous mangerons des sardines, des fruits, du yaourt, puis c'est tout. Paul lui dit, c'est pas un dîner de fête. François lui dit, on peut manger n'importe quoi. Du moment que l'on est ensemble, c'est la fête. Lendemain, 15h, il est place des Vosges. Laurent est là, qui l'attend. Il lui fait « Salut ». François lui dit « Alors ?» Elle va sortir, je la montrerai et tu la dragues. Et si je ne lui paie pas, te fais pas de soucis pour ça, pour comme tu es. Tiens, la voilà, elle sort de l'immeuble. François voit une jeune fille mince, cheveux châtains, dans les 18 ans peut-être, habillée d'une robe toute simple bleue. Elle a un cabas noir à la main, souliers bas marron. Elle fait petite fille sage. François lui demande, c'est elle?
Oui.
François lui dit, ça ne me dit pas, ça ne me dit pas. Elle n'est pas le type de fille qui invite chez elle un type. Laurent lui dit, on n'a pas de temps de discuter. Tu te débrouilles pour rentrer chez elle. Allez. François soupire. Il se demande comment il va faire. Il va vers la fille. Elle marche dans leurs pas. Il se dit, allons-y. Il tombe à terre et crie, au secours, au secours. La fille se retourne. Elle dit, pouvez-vous m'aider à me relever, s'il vous plaît? Elle accourt à lui. Se penche et l'aise à se relever. Il fait, aïe. J'ai mal à la jambe. Je ne peux marcher. Aidez-moi à trouver une pharmacie. Elle lui demande, que vous est-il arrivé? Il lui répond, je m'ai bousculé pour prendre mon téléphone portable. Et je suis tombé. Et j'ai mal. Il y a un pharmacien par là. Elle lui dit, c'est le week-end de Pâques. Tout est fermé. Notre médecin aussi. Vous pouvez marcher, il lui dit, difficilement, si je pouvais téléphoner pour appeler que l'on vienne me chercher. Elle lui demande, et si on appelait la police? Il lui dit, surtout pas, je suis le fils d'une famille très connue, ça risque de créer des ennuis, des journalistes et tout. Je suis le fils de Frédéric Lefort, l'ancien ministre de l'énergie, qui s'est marié avec une des filles du roi de Suède. Alors vous voyez. Elle fait, je comprends, je sais ce que font les journalistes. Il lui demande, que faire mon Dieu? Je ne peux pas rester dans la rue comme ça, je dois téléphoner. Elle lui dit, malheureusement tout est fermé, même les cafés. Il lui dit, et chez vous, vous avez le téléphone? Elle lui dit, oui bien sûr, mais il lui fait, je suis une personne sérieuse, vous savez. Elle lui fait, oui bien sûr, alors elle lui dit, bon, eh bien, venez, je vais vous aider à marcher. Elle le maintient contre elle, il se plaque bien contre elle pour qu'elle puisse sentir son corps et son odeur. Elle lui demande, n'est pas trop mal. Il lui fait, si bien sûr que j'ai mal, mais ça peut aller. Il voit son visage, elle n'est pas maquillée, c'est une fille sage et qui rêve. Elle lui dit, ça va arriver. Elle va ouvrir la porte de son allée. Ils sont entrés. Il lui dit, c'est très joli. Elle lui dit, oui, enfin, elle est gênée. Elle lui dit, mon père est concierge ici. Il lui dit, c'est bien. Elle va ouvrir la porte de la conciergerie. Entrez. Il ferme la porte derrière eux. Venez, nous allons au séjour. Entrez. Asseyez-vous. Fais asseoir dans un fauteuil. Lui tend le téléphone. Il lui dit, merci. Je suis parti avec mon parrain, Pierre-Max Roussillon, le célèbre journaliste de Radio C Métropole. Il avait affaire à Paris, alors je l'ai accompagné parce qu'il a peur de voyager seul. Parce qu'il doit prendre l'avion, il se fait endormir chez lui, mener à l'ambulance à l'avion, parce qu'il a peur de prendre l'avion. Elle lui demande, vous êtes de quel endroit? Il lui dit, de Suède. Et il fait, vous savez très bien parler le français? Il lui dit, j'ai eu une gouvernante française. Il fait un numéro. Allô? C'est moi, Pierre-Max. Écoute, il m'est arrivé quelque chose. On m'a agressé dans la rue et je me suis fait mal à la jambe. Non, c'est pas très grave, mais enfin, j'ai tout de même mal et j'ai des difficultés à marcher. Est-ce que tu pourrais pas venir me chercher en taxi? Je suis place des Vosges, au numéro, c'est à la conciergerie. Je te remercie, Pierre-Mars. Et il a raccroché. Il lui dit, il ne peut venir que plus tard dans la soirée. Qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, je sais pas. Il lui fait, je ne peux pas rester ici tout ce temps. Et puis, j'ai mal. Elle lui fait, oh, oui, votre jambe. Il lui fait, oui, j'ai très mal. Elle lui dit, il va falloir peut-être vous allonger. Il lui dit, oui, je crois que ça me ferait du bien. Et soupire. Et lui dit, bon, ben, je vais vous mener à la chambre de mon père. Elle aide à se lever. Et le guide jusqu'à la chambre. C'est une petite pièce meublée 1960, armoire à deux portes, lit à deux places, deux tables de nuit. C'est propre mais très pauvre. Les volets sont fermés, mais le jour vient des fentes des persiennes. Tenez, allongez-vous. Elle l'aide à s'allonger. Il lui dit, merci, je crois qu'il veut valoir, c'est que vous m'enleviez mes chaussures. C'est ce qu'elle fait. Il lui dit, soulevez-moi la jambe de mon pantalon pour voir ce que j'ai, si elle n'est pas enflée. J'ai assez mal. Mal de partout. Elle commence à lui soulever la jambe du pantalon. Il lui dit, ce serait peut-être plus simple si de l'enlever. Il défait sa ceinture. Et la fermeture a glissé. De sa braguette. Il lui dit, allez-y, tirez. Ce qu'elle fait, elle tire le pantalon. Elle a le pantalon dans la main et se retrouve avec un tout jeune homme en caleçon blanc et chaussettes mi-bas noires. Elle est essoufflée, surprise. Il sourit et lui dit, merci. Elle porte le pantalon et le met sur le dossier de la chaise. Il lui dit, j'ai très mal à ma jambe gauche, est-ce que vous pouvez me la masser, s'il vous plaît? Il a un sourire si délicieux qu'elle n'ose pas lui dire non. Il est tellement, ou a l'air tellement inconscient et mignon. Ses jambes ressemblent à celles d'un enfant, blanches, minces et lisses. Elle se penche et commence à la masser. Et lui dit, descendez la chaussette, ça ira mieux. C'est ce qu'elle fait. Elle lui demande, ça vous fait mal? Il lui dit, non, c'est bon, allez-y, plus haut, un peu plus haut, encore, encore, c'est très bon. Elle monte le long des cuisses. Elle est gênée parce qu'elle le trouve très doux, qu'elle les trouve très douces et fines, et que ça lui fait quelque chose malgré elle. Il a les yeux baissés et semble être très calme. Elle voit que dessous son caleçon, une chose longue monte et descend à un rythme régulier. Elle va jusqu'au caleçon et lui dit, c'est votre main là, ça fait du bien. Elle lui fait gêner, mais il lui dit, c'est là que j'ai mal. Elle laisse la main. Tout à coup, il serre la main entre ses cuisses. Qu'est-ce que vous avez? Il lui dit, rien, un réflexe. Je sens. Que j'ai besoin que l'on me s'occupe de moi, que l'on me console. Elle lui dit, lâchez ma main. Il la lâche et lui dit, si vous saviez que je suis malheureux. En réalité, je suis venu à Paris, c'est pour enterrer ma pauvre maman, qui est morte d'un accident de voiture. Elle lui fait, votre pauvre maman, oh pauvre jeune homme. Il lui dit, oh vous y êtes, je suis bien à plaindre. Je vis bien seul. Mon père ne s'occupe pas de moi. Toujours en tournée pour voir ses centrales atomiques. Alors, j'ai personne. Personne n'a parlé. Personne qui s'occupe de moi. J'ai mal à ma jambe. Appuyez. Entourez-la. Oh, ma pauvre maman. Oh, ma pauvre maman. Elle lui dit, ne pleurez pas. Il lui dit, j'ai bien mal. Et personne ne peut me consoler. Caressez-moi les cheveux. J'aime beaucoup que l'on me caresse les cheveux. Elle se penche et lui caresse les cheveux. Elle ne sait plus où elle en est. Et puis, il lui semble vivre une de ces histoires de pauvres pinces perdues que rencontre une jeune fille sage et pauvre. Elle sent sa chaleur. Ses cheveux sont doux comme du satin. Et se dit que ce devrait être un vrai prince de Suède. Et lui dit, comme vous avez les mains douces, ça me rappelle ma mère. Et il pleure. Puis se soulève et plaque sa tête sur sa poitrine. Il se plaque très fortement. Elle en a le vertige. Elle se dit, mon Dieu, j'ai rencontré moi un prince et beau et gentil comme un dieu. Il se dit, il faut que ça dure encore quelque temps avant de commencer la chose. La nuit n'est pas encore là. Qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper? Il reste plaqué contre elle et lui dit, lorsque j'étais tout petit, ma mère me tenait comme ça. Il se plaque encore plus fortement contre elle. Il entoure de ses mains sa taille. Et elle lui caresse. Elle se laisse faire. Et comme il sent qu'elle s'abandonne de plus en plus, il la retourne et la met allongée sur le lit d'un geste. La chose a été si bien faite qu'elle n'a pas réagi. Elle se retrouve sous lui. Il se plaque contre elle. Elle lui dit, mais, il lui dit, j'ai tellement besoin de douceur. Avoir besoin d'un être si doux. Vous vous semblez si douce et gentille. Vous voulez bien? Elle le sent plaqué contre lui, un corps mince, doux et tellement enfant qu'il ne peut lui faire de mal. Pourtant, elle sent aussi une chose raide et chaude. Il l'embrasse sous la joue et son visage s'approche d'elle. S'approche d'elle. Elle ne voit plus rien. Plus rien. Elle se laisse faire. lui, fait calmement, doucement. Il a le temps. Il a l'impression de rêver un prince si beau. Une heure plus tard, la pièce est dans la pénombre. Ils sont tous les deux nus sur le lit, les vêtements en désordre à terre. Il se réveille essoufflé, soupire. Il se soulève et sent quelque chose de gluant. Merde! Qu'est-ce que c'est? Il éclaire la lampe de chevet. Il voit qu'il y a une tache de sang sur le dessus du lit. Qu'il a du sang sur les cuisses et lui aussi. Merde! La lumière l'a réveillé. Elle le voit nu, debout. Lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je me prépare. Je vais bientôt me... Pierre-Max va bientôt me chercher. Elle lui dit, attends, je le me lève moi aussi. Il lui dit, non, reste au lit. Il se dit, j'avais complètement oublié qu'il faut qu'elle reste endormie. Si elle se réveille, que faire? Merde! Merde, merde, merde. La voilà debout. Il lui demande, où vas-tu? Elle lui dit, à la salle de bain. Pourquoi faire? Elle lui dit, mais me nettoyer? Merci, qu'est-ce que je vais faire? Et si je l'enfermais dans la salle de bain? Mais elle risque, c'est de crier au secours. Donc, va l'entendre. Merde, merde, merde. J'ai fait tout ça pour rien. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là là. Il va à la salle de bain. La porte est ouverte. Elle est dans la baignoire. Baignoire sabot. Elle lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je viens moi aussi. Elle lui dit, c'est vrai, pardonne-moi mon chéri. Prends le gant qui sort le lavabo. C'est ce qu'il fait. Et il se nettoie, puis va vers elle. Elle lui sourit et lui dit, prends la brosse et lave-moi le dos. Il prend la grande brosse en plastique blanc. Elle se retourne et il la brosse. Et puis, d'un coup, il donne un coup sur la tête de toutes ses forces. Oh! Elle s'enfonce dans l'eau. Là, avec sa main, il enfonce la tête. Bien, bien. Et attend un peu. Elle ne bouge plus. Il se dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est ce salaud de Laurent. Et il sort de la salle de bain. va à la chambre s'habiller. Il se dit, me voilà un criminel à cause de ce salaud de pédé. Maître Chanteur, me paiera ce salaud. Putain de merde, de saloperie de pédé. Une fois habillé, il va dans l'allée, dans le couloir, je veux dire. Regarde le tableau où se trouvent les clés. Voyons. Porte de l'appartement 2. Il prend les clés du placard électrique. Voilà. Puis, il sort de l'appartement en servant bien la clé. C'est vrai qu'il y a un cadavre maintenant. Bon, la cave. Où est-elle? Il tourne dans l'allée et voit sous les escaliers une porte en bois à peine plus haute d'un mètre. Il ouvre la porte, elle n'était pas fermée à clé. Éclair. Et descend les escaliers. Ce sont des escaliers de pierre, humides, mais c'est propre. Descend la cave. Une fois en bas, couloir des caves. Sol terre. Seule terre battue, il se dit. Où se trouve ce tableau électrique? Il cherche et voit dans un renfoncement une armoire électrique en métal grise. Il ouvre avec la clé. Il voit un tas de trucs et un curseur où est marqué dessus générateur. Doit être ça. Nickel, baisser le générateur et puis l'électricité d'alarme, de caméra, de code, etc., etc. Plus de lumière non plus. Bon, eh bien, le curseur. Plus de lumière dans la cave. Merde. Referme le tableau. Je suis obligé de me diriger à tâtons maintenant. Arrivé aux escaliers, il les monte doucement. Ouf! Il arrive dans l'allée. Là, il ouvre la porte. Apparaît Laurent qui entre, ferme la porte. Laurent lui dit, tu en as mis du temps. François lui dit, ça s'est pas passé comme prévu. Figure-toi que tu as un cadavre sur le dos. Comment? François lui dit, j'étais obligé de la tuer pour éviter qu'elle me prévienne la police. Elle s'est réveillée. Et puis, j'ai fait ce que nous avions prévu. Laurent lui dit, ça n'a pas d'importance, une fille de plus ou de moins. Alors, tu as les clés? Oui. Bon, on y va. Il se dirige vers l'ascenseur. François lui dit, Non, idiot, il n'y a plus d'électricité. À pied. Et il monte à l'étage, jusqu'au deuxième étage. Chaque étage, il y a une porte et il y a aussi un meuble en bois de rose, une petite table en bois de rose dans l'allée. Arrivé à l'étage, François donne les clés. Laurent lui dit, c'est ici. Il ouvre la porte et ils entrent. Laurent se sert de sa lampe de poche qu'il a à la main. Un grand sac noir de poubelle, 750 litres, et dedans des chiffons. François dit, c'est beau, il y a des meubles magnifiques. Un salon en enfilade, grand luxe. Laurent lui dit, je sais ce qu'il soit une vitrine pleine de bijoux et de figurines antiques de Byzance. Si on prend ça, on est riche à millions. Cherchons où se trouve cette vitrine. Ils font les pièces. Ils voient une belle vitrine pleine de bibelots et bijoux. C'est ici, regarde. C'est en ivoire et marbre. Il y en a même qui ont des diamants incrustés dessus. Alors, la vitrine est fermée à clé avec alarme. Mais l'alarme ne marche pas. Mais la serrure, oui. Alors Laurent sort de sa poche une chose qui ressemble à un stylo et qui a un rayon laser qui lui permet de briser la vitre. Puis, en vitesse, son sac plastique est plein de chiffons et dit à François, passe-moi les babioles. François lui place les objets et il les met dans un sac en PVC. Mais il les sépare en les enroulant dans des chiffons pour éviter que les bijoux et les figurines se cognent et se dégradent. Ça prend du temps. C'est très long. Puis il faut faire attention. François a très peur. Il tremble. Tout d'un coup, ils ont entendu un bruit. La porte qui s'est ouverte. Thank you. nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.